vous avez apporté à la discussion. Et je vais passer la parole donc à Olivier Buirette de Sorbonne Nouvelle sur la question du non-paiement des réparations de guerre en insistant sur le cas de la Bulgarie.
Oui, très bien.
Vous avez la parole.
Merci.
5 minutes, tout compris.
D'accord. Merci, cher président de séance. Merci.
Olivier,
bonjour. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je viens d'activer mon micro. J'avais oublié. Merci, cher président de séance. Et bonjour à toutes et à tous, collègues à distance et en webinaire. Donc je voulais en fait, je vais essayer de faire un peu comme Christine et donc de faire 15 minutes pour ensuite avoir un peu de débat. Je voulais quand même rebondir en guise d'introduction sur, parce qu'il y a plusieurs fois été question du plan Daus, à la fois dans l'insertion de Trajan et puis Christine qui l'a repris. C'est quand même de rappeler que le plan Daus de 1924, cette aide économique à l'Allemagne, en fait, c'était surtout pour sortir de la première grosse crise internationale d'après la guerre de 14, c'est-à-dire l'invasion de la Ruhr de 1923 en janvier par les troupes franco-belges, opération unilatérale décidée par Poincaré à l'époque, hein, et qui avait pour question tout simplement d'aller se servir en nature pour faire tourner l'industrie lourde allemande, pour se servir en nature, se faire rembourser les réparations. Ces fameuses réparations de guerre, justement, dont je vais vous parler là, qui, évidemment, sont en tout cas, à coup sûr pour les années 20, un point tout à fait central, à la fois dans les traités de paix, ça a été rappelé par Christine tout à l'heure, mais en même temps, un point tout à fait non négligeable, parce que la plupart des grandes conférences, on le sait, du début des années 20, tout simplement, concernent simplement les réparations. Et je parle plus précisément, parce que je vais parler d'autre chose dans un instant, des réparations allemandes. Hein, parce que, même si à cette époque-là, on n'en parle pas encore, il y a le poids de ce qu'on appelle aujourd'hui les opinions publiques. Il ne faut pas oublier que, en tout cas, le monde occidental, et quand même en grande partie la France, quand même, hein, sort de 4 ans de guerre sur son territoire, qui ont été, même sur un front figé d'à peu près 2000 km, particulièrement lourdes, hein, sur le plan humain. On ne vient pas, bien sûr, sur le bilan de la Première Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi sur tout un tas d'aspects considérables. Donc, c'est chacun des traités de paix, hein, de ces fameux traités de paix qu'on a effectivement, depuis ce matin, j'ai bien vu, pas mal chargés, parce que c'est vrai qu'ils ont une réputation d'avoir, en gros, forgé le malheur qui frappera l'Europe à la fin des années 30. Hein, ça a été suffisamment dit et expliqué, tout ça. Mais ces traités avaient quand même eu le mérite d'essayer de créer une première stabilisation internationale après la Première Guerre mondiale. Je rappelle notamment, même si c'est pas le propos d'aujourd'hui, qu'il y avait notamment dans chacun de ces traités des chapitres concernant les minorités, par exemple. Hein. On avait prévu que dans la reconfiguration, hein, suite à la destruction des empires centraux, hein, bon, empire allemand, mais qui quand même restera à peu près stable, la désintégration totale de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, ne l'oublions pas, tout cela, hein, en effet, avait été pris en compte. On savait qu'il y aurait des problèmes de minorité, etc., dans ces traités. Mais tous ces traités, et je viens à mon propos, comportaient un chapitre des réparations. Alors, on s'est beaucoup focalisé sur les réparations allemandes, je viens de le dire, le fait que l'Allemagne ne pouvait pas les payer, et que donc on va arriver à ce clash de l'invasion de la Ruhr en 1923 et une tentative de sortie par le haut en 24 avec le plan Daus, hein, et c'est ce prêt en dollars pour que l'Allemagne puisse enfin envisager un moratoire, enfin pas un moratoire, pardon, lapsus, mais calendrier sur le paiement de ces fameuses réparations. Ce qui amène ensuite, comme vous le savez, aux accords de Locarno en 1925, c'est-à-dire une période qui, dans cette triste histoire de l'entre-deux-guerres, je trouve, reste comme un grand moment de stabilisation diplomatique. Bon. Mais, donc on rappellera bien sûr le pacte brillant Stresemann, hein, bien sûr. Alors, les autres traités, puisqu'il s'agit là aussi de faire un panel sur la question des réparations chez les alliés de l'Allemagne, hein, les autres traités prévoient aussi des chapitres donc sur les réparations. Le chapitre des réparations hongroises, chapitre des réparations pour la Hongrie et chapitre des réparations prévues également donc pour la fameuse Bulgarie. Alors, on pourrait être étonné que mon propos va porter ici sur ce petit pays des Balkans. Alors, j'avais prévu, j'ai pas un PowerPoint moi, mais j'avais prévu des petites cartes en fait que j'ai mis sur le drive là des organisateurs. Et je ne sais pas s'il est possible, ouais. Est-ce que c'est possible? Voilà, parce que comme j'ai souvent l'habitude de donner des cours sur ces questions-là, je prévois toujours des cartes parce que je ne doute pas que vous sachiez où se trouve la Bulgarie, mais je veux dire c'est un pays quand même des Balkans dits de l'Est, hein, les Balkans de l'Ouest étant la fractalisation ex-yougoslave, et donc de bien voir où elle se trouve. Voilà, c'est sympa, voilà. Alors merci d'avoir partagé l'écran. Donc la Bulgarie, qu'est-ce que c'est, hein, c'est vrai. Alors la Bulgarie, c'est un petit État des Balkans, hein, qui a complètement balkanique au niveau de son histoire. Fait partie de ces États qui sont redevenus indépendants au moment où l'Empire ottoman a reculé dans la région. Hein. Voilà, donc au XIXe siècle, hein, vous savez, ça commence par la Grèce. Hein, bon, et puis après, il y a d'autres États qui vont se libérer, la Roumanie, d'autres petits États des Balkans de l'Ouest, la Serbie, et puis il y a la Bulgarie. Bulgarie, principauté bulgare, royaume de Bulgarie, etc. Toute son histoire, et là vous voyez les deux traités qui en donnent deux cartes différentes, traité de San Stefano et le traité de Berlin. Ces deux cartes vous montrent la situation géographique. On peut peut-être voir la carte suivante, parce que je ne vais pas évidemment vous parler du traité de San Stefano là, parce que sinon on n'a absolument pas le temps. Alors, il me reste 10 minutes. Celle-là, voilà, ça c'est très bien, celle de Neuilly. Voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est la carte donc de la Bulgarie, si vous voulez, réduite par le traité qui la concerne, hein, le fameux traité signé le 27 novembre 1919, donc le traité de Neuilly. Et la particularité de ce traité de Neuilly, justement, et j'y viens puisqu'il est question de réparation, c'est qu'il fixe le montant des réparations bulgares, précisément. Hein, les réparations allemandes, vous savez, il y a une fixation astronomique théorique, la fameuse phrase de Klotz, l'Allemagne paiera, etc., j'y reviens pas. L'Autriche et la Hongrie, la fixation, comment dire, du montant des réparations n'est pas définitive, elle est reportée à une commission qui devra l'établir, la fameuse commission interalliée des réparations de guerre, justement, qui est la seule organisation qui est internationale qui est créée, hein, par les traités de paix avec la SDN, hein, je vous le rappelle. Hein. Là, il y a la Société des Nations, donc cette première mouture, hein, de ce que sera plus tard l'ONU, et puis une commission interalliée des réparations de guerre. Ce qui montre quand même à quel point, en tout cas moi je défends un peu ma paroisse sur les années 20, que cette question des réparations est vraiment très importante, hein, pour la période du début de l'entre-deux-guerres, c'est en fait la période des années 20. Hein. Et ces réparations donc sont chiffrées, hein, dans le traité de Neuilly à 2 250 000 francs or. Hein. Donc ce qui correspond, alors j'ai fait quelques calculs, ça correspondrait, mais là je pense que davantage d'économistes pourront m'aider là-dedans, mais enfin à 32 625 000 euros actuels. Hein. Bon, ceux qui sont des montants, si vous voulez, bon, évidemment, il faut mettre au prorata, bien sûr, de l'époque, de ce que représente 2 250 000 francs or. Alors, pourquoi le montant des réparations bulgares est fixé tout de suite? Eh bien, tout simplement parce que on tient compte, justement, et Christine en a parlé tout à l'heure, je crois, que dans la rédaction de ces traités, bah, de l'état des pays dont on s'occupe, hein, si vous voulez. Bon, là, on se focalisera, et on a bien compris pourquoi, sur la question des réparations allemandes, bien sûr, mais dans le cas de la Bulgarie, on est dans un peu une sorte d'ovni, si vous voulez, géopolitique. C'est un petit pays agraire des Balkans qui s'est retrouvé entraîné, hein, et se retrouvera entraîné deux fois au moins au XXe siècle, dans deux guerres mondiales, dans la sphère, dirions-nous, germanique allemande, quoi. Hein. Et pour quelle raison? Ben, tout simplement, et vous le voyez sur cette carte que vous avez devant vous, c'est que la Bulgarie du début du XXe siècle ne va avoir en tout cas de l'après 1919, ne va avoir de cesse que de vouloir récupérer à la fois ce qu'elle a perdu après le traité de San Stefano, comme je vous ai montré sur la carte précédente, par le traité de Berlin, et de récupérer aussi, ça c'est tout l'enjeu de l'entre-deux-guerres, les territoires qu'elle a perdus, la Dobroudja au profit de la Roumanie au nord, comme vous la voyez là, au sud, tout ce débouché vers la mer Égée, qui était pourtant si important, et puis, si je puis dire, à l'ouest, cette question éternelle de la Macédoine, parce qu'il se trouve que la Macédoine, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord, hein, eh bien, est considérée par une partie de l'opinion publique bulgare, hein, est considérée par l'opinion publique bulgare. Enfin, aujourd'hui, bon, évidemment, ça c'est un peu émoussé, hein, mais disons pendant l'entre-deux-guerres comme vraiment le berceau, hein, littéralement, de la civilisation bulgare. Donc, sauf que bon, vous savez, la Macédoine du Nord, la Macédoine deviendra, comme vous le savez sûrement, un des États du royaume de Yougoslavie et plus tard, évidemment, de la Yougoslavie titiste de l'après 1945. Hein. Donc ça reste un point de tension, ça aussi. Hein. Alors, pour ces réparations, donc, et je vois que je suis déjà à 11 minutes, on va donc, je vais vous faire ça assez rapidement, créer justement, si vous voulez, il y a une commission interalliée des réparations de guerre qui est créée par les traités de paix. Dans le cas de la Bulgarie, comme c'est un cas spécifique, avec des réparations déjà fixées, comme je vous l'ai dit, on crée une commission interalliée des réparations bulgares, spécifiques. On va envoyer donc à Sofia, hein, une délégation, si vous voulez, de cette commission présidée par René de Chériset, hein, et qui va donc se mettre au travail pour voir comment les Bulgares vont pouvoir payer ces réparations, car la Bulgarie, c'est ce petit état agricole qui a autant subi les affres, hein, de la Première Guerre mondiale que les autres états de la région, et qui en plus, il faut bien le dire, au début des années 20, est en proie à une situation politique complètement déstabilisée. Ce qui d'ailleurs est le cas aussi de pas mal d'autres états de la région. Hein. Rappelez-vous de la tentative de révolution bolchevique à Budapest, hein, en mars 1919, ce qui fait que le traité de Trianon est signé si tard. Hein. Et puis de multiples foyers de tentative d'extension de la révolution bolchevique dans la région un peu partout, en Roumanie, dans toutes les anciens territoires de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et l'Allemagne aussi d'ailleurs, sont en proie, hein, à cette époque-là, une période particulièrement effervescente de déstabilisation. Et ça, les diplomates, les concepteurs des traités, les différents personnels en active au début de ces années 20 veulent absolument empêcher, évidemment, hein, cette déstabilisation. Cette déstabilisation qui, comme vous en douterez, entraînerait évidemment une extension des révolutions, des foyers de révolution bolchevique un peu partout. Bon, c'est une vieille image d'Épinal que je vous dis là, mais néanmoins, les faits, hein, de ce début des années 20 sont là. Le cas de la Bulgarie est un peu particulier, car le début, la Bulgarie du début des années 20, c'est une Bulgarie où, comment dire, il y a un régime agrarien, dirigé par Alexandre Stamboliski, une sorte de régime paysan, si vous voulez, dont on ne sait pas très bien quelle pourrait être l'évolution, et qu'on veut absolument stabiliser et ancrer, en tout cas, dans le camp occidental. Donc, cette commission va se mettre au travail, et je vois qu'il me reste presque plus de temps, mais sachez que les Bulgares, finalement, vont payer principalement des réparations donc en nature, qui seront versées à ses principaux voisins, qui sont les États successeurs vainqueurs. Bien évidemment, vous l'avez compris, le futur royaume de Yougoslavie, au nord, à l'ouest, au nord, la Roumanie, et au sud, la Grèce. Hein, voilà. C'est ça que je bon, après, je pense, je redétaillerai davantage s'il y a des questions ou dans la version rédigée de cette petite intervention. Hein. Mais voilà, il y a cet aspect particulier, et quand on connaît l'histoire de la région, si vous voulez, après tout ce qui va se passer dans les années 20, dans les années 30, la Bulgarie à nouveau devenir un régime autoritaire, disons-le, d'extrême droite, en tout cas particulièrement autoritaire, qui va être rapidement dans le giron de l'Allemagne, hein, à nouveau, etc. Toujours pour les mêmes raisons, hein, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah effectivement, on peut comprendre, en tout cas un peu, et moi je peux défendre un peu les traités de paix dans ce panel de ce matin, de se dire que les personnes qui ont gravité dans cette commission interalliée des réparations de guerre, la commission des réparations bulgares, dans les rédacteurs des différents traités, avaient pas mal à l'esprit, effectivement, une tentative, en tout cas, de stabiliser les choses. Que c'était un échec, évidemment, là, ça relève, et je continue de le penser encore aujourd'hui, ça relève davantage, peut-être, d'un émoussement de la volonté d'appliquer peut-être nécessairement ces fameux traités. Voilà. Je vous remercie de votre attention et ça fait 16 minutes et donc on pourra passer à des petits débats.
Un peu moins d'une dizaine de minutes pour la discussion éventuellement, bien que déjà nous en prenions le temps sur la pause café. Bon, donc qui souhaite prendre la parole, poser des questions, soit ici à Nice, soit sur le réseau à Paris, au Portugal, notamment. Oui, c'est Joseph.
Par rapport à l'homogénéité de la Bulgarie, est-ce que ça ne pourrait pas que la Bulgarie réduite, la technologie, plus homogène? Et qu'en est-il, par exemple, des minorités turques? Peut-être grecques aussi, puisqu'on voit que la Bulgarie cède une partie du littoral, qui est d'ailleurs très importante, celle de boucher sur la mer Méditerranée. Alors voilà, est-ce que le pays est plus homogène à la suite à ce traité de
Neuilly? Oui. Alors, la question de la minorité turque en Bulgarie, elle est bien connue, puisqu'il s'agit en fait des fameux Pomak, qui ont subi, on le sait maintenant, dans les années 80, vers la fin de l'ère Zhishkov, une véritable, ce qu'on appelait à l'époque, sans que ce soit déjà ça à ce moment-là, une véritable purification ethnique. Donc oui, il y a bien sûr dans la Bulgarie un certain nombre de problèmes de minorité, même si c'est un petit État. Et là, je ne développerai pas sur la question du traité de Trianon et de la réduction drastique du territoire hongrois, mais dans le cas de la Bulgarie, on a cette minorité. Donc, alors ce sont des ces Pomaks, ce sont des Slaves islamisés, hein, c'est-à-dire un peu comme ceux des Balkans de l'Ouest qu'on avait en Bosnie-Herzégovine, par exemple. Hein. C'est-à-dire, ce sont des peuples slaves qui étaient là dans la région et qui, au moment où la Turquie, l'Empire ottoman, s'est étendu partout, pour près d'un demi-millénaire, hein, parfois dans la région, se sont convertis tout simplement à l'islam. Donc voilà, c'est la minorité musulmane de ces pays-là, c'est davantage ça. Mais il y en a d'autres en Bulgarie. Hein. Il y a une minorité tzigane tout à fait considérable, hein, faut pas l'oublier, qui ils sont d'ailleurs pas mal regroupés, tous ces tziganes, notamment vers la mer Noire. Hein. On va en retrouver aussi en Roumanie des deux côtés. Hein, bon, voilà. Donc ça aussi, point de vue minorité. Et j'insiste là-dessus parce que ce sont des cas qu'on a vus en Macédoine, quand on a vu des reportages là-dessus, ou sur tout un tas de choses sur la dissolution de la Yougoslavie et la guerre civile de 10 ans qui en a suivi. C'est que bien souvent en Bulgarie, vous allez dans n'importe quelle ville, village, vous avez très souvent dans une même rue un temple orthodoxe. Une église orthodoxe plutôt, un temple protestant, il peut y en avoir, et une mosquée pour les musulmans islamisés, enfin les slaves islamisés. Voilà. C'est les Balkans.
Oui, question de Xavier Richer.
Oui, alors, moi, ma question pose sur le problème qu'il y a aujourd'hui entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord, en ce qui concerne la session, disons, l'ouverture des négociations pour devenir membre de l'Union européenne à propos de la Macédoine du Nord. Alors, d'après ce que tu dis, c'est tout ce qu'il y a sur, parce qu'apparemment, les Bulgares disent c'est pour une reconnaissance de l'origine de la langue, etc. Mais toi, tu penses que ça remonte vraiment à cette période où c'est véritablement ancré à...
Voilà. Je te remercie Xavier pour ta question. C'est une histoire. Alors souvent, on entend souvent dire ah oui, la Macédoine pour les Bulgares, c'est un peu comme l'Alsace-Lorraine pour les Français. Évidemment, c'est un raccourci, un peu dangereux. Ce que revendique, en fait, cette histoire de Macédoine c'est une véritable boîte de Pandore éternelle, en fait. Hein. Il y a eu, moi je pense, pour répondre assez vite à ta question, on est sûr qu'on a eu une grande avancée quand il y a eu ce fameux accord trilatéral, je crois, quand la Grèce, la Bulgarie, justement, et la FIROM, ce qu'on appelait la former Yugoslavian Republic of Macedonia, hein, ont accepté le terme de Macédoine du Nord, précisément. En faisant, ça fait typiquement balkanique, une référence à la Macédoine du Sud. La Macédoine du Sud, évidemment, c'est la Macédoine grecque, c'est la seule, la vraie, entre guillemets, celle de Philippe II et d'Alexandre le Grand. Hein. Bon, il y a eu pas mal de petites querelles là-dessus, notamment quand en Macédoine, je crois, donc du Nord, l'aéroport de la capitale s'était intitulé Alexandre le Grand, je crois, enfin quelque chose comme ça. Bon, évidemment, c'est une question récurrente, mais il ne faut pas oublier que la Serbie, par exemple, a des revendications aussi sur une partie de cette Macédoine, la Grèce donc sur une autre partie, et les Bulgares encore sur une autre partie. Et sans parler des Albanais, qui eux ne sont pas des Slaves du tout, hein, mais qui ont une minorité considérable en Macédoine aussi. Donc moi je pense qu'il y a eu des efforts considérables, là il y a un an ou deux, trois ans peut-être, pour stabiliser les choses, déjà en trouvant un nom, sachant que, et je crois, je parle sous le contrôle de notre cher Trajan, qui est quand même l'autorité en matière de Balkans, je trouve. Je ne sais pas si tu es là, Trajan, mais ou encore là. Mais si tu es là, voilà. Donc, je veux dire que la Macédoine, on dit toujours que la Macédoine, en fait, avait été surtout pas mal recréée par Tito, dans la mesure où, à cette époque-là, c'est une histoire bien connue de l'après-45, on imaginait que la Grèce, où il y avait une guerre civile, basculerait dans le camp socialiste. Et ce qui aurait alors permis à Tito de créer sa fameuse grande Yougoslavie, dans laquelle il aurait avalé la Bulgarie, il aurait avalé la Grèce, et peut-être pourquoi pas l'Albanie, mais bon, je pense que là ça aurait été plus compliqué. C'était un des projets, ça on le sait bien. Donc, mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Bah, et voilà, c'est parfois...
Un projet aussi de confédération avec
oui.
La Bulgarie, de confédération balkanique,
c'est ça.
Que Staline voyait d'un très mauvais œil.
Bah oui, c'était très très mal vu, et ça a très mal fini, d'ailleurs, pour Tito, comme on le sait, vu son exclusion après. Voilà.
Bien, merci beaucoup pour votre présentation et pour ces commentaires. On aura l'occasion d'ailleurs demain matin de revenir sur ces questions puisque on discutera justement des Balkans occidentaux. Donc merci beaucoup et on arrête la première session pour passer à la pause café pour quelques minutes.